Donc bonjour et bienvenue dans cette seconde séance du cours sur les petits systèmes thermoélectriques. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur l'approche de Landauer et on va entrer dans le vif du sujet puisque je vais vous parler de l'établissement des coefficients thermoélectriques dans l'approche de Landauer-Bütikofer. Et ensuite, à titre, disons, d'application, et aussi de transition avec le séminaire qui va suivre, je vais vous parler de contacts quantiques ponctuels et des observations du pouvoir thermoélectrique dans ces systèmes. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir comme orateur invité Lorenz Mollenkamp, qui va nous présenter deux séminaires. Le premier sera une sorte de revue des propriétés thermoélectriques de nanostructures. Lorenz a été le premier à observer ces effets dans les contacts quantiques ponctuels en particulier, et puis après dans toute une série d'autres dispositifs. Donc, il a accepté de nous présenter une revue des études expérimentales sur ce sujet. Mais bien entendu, Lorenz est aussi très connu pour des travaux récents sur les isolants topologiques. Et donc, l'occasion était trop belle de profiter de sa venue pour que il nous parle de ce sujet qui n'est pas directement lié au cours de cette année, mais c'était une belle occasion. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Bien, alors, je vais donc entrer, comme je le disais, dans le vif du sujet. La dernière fois, on a principalement parlé de transport et pas encore de transport thermoélectrique. Donc maintenant, je vais parler vraiment de transport thermoélectrique et je vais vous rappeler, ce sont des choses qu'on a déjà introduit dans le cours de l'année dernière, mais comme j'ai promis que le cours de cette année pouvait être suivi sans avoir suivi le cours de l'an dernier, je vais faire un certain nombre de rappels. Donc je considère, disons, une situation où j'ai deux réservoirs, comme la dernière fois, avec une constriction que je ne précise pas pour l'instant, et on va écrire le courant de particules et le courant d'entropie à travers ce système. Alors pourquoi est-ce que je choisis particules et entropie comme mes variables de base? Alors, vous verrez dans la littérature, les choix varient. Il y a des gens qui parlent de courant de particules ou de courant de charge, et des gens qui parlent de courant de chaleur, souvent. Mais d'un point de vue de la facilité théorique, c'est plus simple et plus élégant, à mon avis, de parler de courant d'entropie. La raison étant que, de même que le nombre de particules est conjugué au potentiel chimique, l'entropie est conjuguée à la température. Et de cette manière-là, on est assuré que la matrice des coefficients de Hunsager qu'on va écrire est symétrique. Il n'y a pas de facteur T qui traîne dans tout ça. Quand on choisit les variables conjuguées, on est assuré que quand il y a symétrie par renversement du temps, la matrice de Hunsager est symétrique. Je vous rappelle que le fait de choisir des variables conjuguées de cette manière s'inscrit dans un cadre en fait plus général, qui est celui de la thermodynamique, et en particulier de la thermodynamique hors d'équilibre, où on peut définir des forces généralisées. Il y a des notes sur le site web du cours de l'an dernier sur ce sujet. Donc, on a ce courant de particules et ce courant d'entropie, et on va les relier à une différence de potentiel chimique ou de potentiel électrochimique, ce serait plus correct de parler en ces termes, entre le réservoir de gauche et le réservoir de droite, et une différence de température entre le réservoir de gauche et le réservoir de droite. Alors là, je vais juste faire une petite précision sur les notations. Quand je parle de delta mu, je parle ici de mu left moins mu right, et non pas du gradient. Le gradient, ça serait mu right moins mu left divisé par la longueur, donc c'est quelque chose qui a le signe opposé de la différence. D'accord ? Donc delta mu, c'est bien quelque chose qui est comme la tension aux bornes du conducteur, à un facteur moins e près. Par ailleurs, je vous fais également remarquer qu'ici, je parle des courants totaux de particules et d'entropie de ces deux quantités extensives, le nombre de particules totales, l'entropie totale. Et ça diffère un tout petit peu de la définition des coefficients de Hunsager que j'avais introduit dans le cours de l'an dernier. Donc, dans le cours de l'an dernier, je considérais plutôt une vision locale du problème. Je parlais de conductivité thermique, plutôt, comme ici, de conductance et de conductance thermique, qui est une manière de voir les choses plus adaptées au contexte des petits systèmes. Donc j'avais une densité de courant, densité et non pas une intensité totale, et puis j'introduisais les gradients. Alors vous voyez qu'ici, ce changement de signe, hein, il vient du fait que delta mu, c'est moins gradient de mu sur L. Donc ces deux définitions sont parfaitement cohérentes du point de vue des signes. Mais bien entendu, les L qui sont ici ont des facteurs géométriques qui ne sont pas inclus dans ceux-là. Donc dans le cours de cette année, ma définition des coefficients L est celle en jaune ici, avec donc les différences de potentiel chimique et de température entre les deux réservoirs et les courants totaux. Bien, alors, on peut exprimer, et c'est très instructif de l'avoir clairement en tête dès maintenant, on peut exprimer le taux de production d'entropie, donc qui est la contribution irréversible au taux de production d'entropie, en termes de ces courants et de ces gradients. Alors ça, c'est quelque chose de facile à faire. Encore une fois, vous trouverez ça dans les notes de l'an dernier. J'y reviendrai peut-être dans le cours prochain, j'aurai un peu plus de temps. On peut voir que le taux de production irréversible de chaleur, par unité de temps donc, qui est aussi T dS dT, où S est l'entropie, eh bien c'est toujours donné par le produit des courants par ces forces généralisées. Donc le premier terme, IN delta mu, qu'on peut réécrire en utilisant le fait que l'intensité électrique, c'est moins E fois IN, hein, et de même, on peut relier la chute de tension à la différence de potentiel chimique. Donc vous voyez que c'est I delta V, ce qui n'est pas une expression trop surprenante pour la puissance électrique. Et puis ici, vous avez de même un terme, IS delta T, où IS est le courant d'entropie, qu'on peut réécrire si on tient à utiliser le courant de chaleur, puisque le courant d'entropie est relié au courant de chaleur par IQ sur T. Donc on peut réécrire ça en termes du courant de chaleur fois le gradient thermique. Alors je vais utiliser cette forme dans la suite pour différentes considérations, mais d'ores et déjà, ce que vous pouvez faire, alors évidemment, jusqu'à maintenant, je suis en réponse linéaire, hein, ces équations sont des équations clairement de réponse linéaire. Vous allez voir, quand je vais établir la formule de Landauer, je vais m'écarter du cas de la réponse linéaire, mais là, je me concentre sur ce cas-là. Donc on peut utiliser ces équations de réponse linéaire dans cette expression du taux de production irréversible d'entropie. Il suffit donc de remplacer, alors on a déjà delta mu et delta t ici, donc il suffit de remplacer IN et IS par la matrice L fois gradient mu et gradient t, et vous obtenez immédiatement cette forme qui vous dit que le taux de production irréversible d'entropie est une forme quadratique, hein, qui dépend de manière comme les carrés des gradients, donc il y a un terme en gradient mu carré, des termes en gradient mu gradient t, et puis des termes en gradient t carré. Or, le second principe nous dit que le taux de production irréversible d'entropie doit être positif ou nul dans le cas d'un processus réversible ou d'un processus de Carnot. Et ceci doit être vrai quels que soient les gradients qu'on applique, bien entendu. Donc ceci implique que cette matrice L doit être une matrice définie positive, ou je crois qu'on dit plus précisément semi-définie positive, c'est-à-dire qu'elle peut avoir éventuellement une valeur propre nulle. Ça veut dire que si on l'applique à n'importe quelle, c'est une matrice vue comme une matrice de forme quadratique, eh bien, cette quantité est toujours positive ou nulle. Alors pour une matrice de 2, cette condition a des implications sur les coefficients de la matrice qui nous disent que le coefficient L1 doit être positif ou nul. C'est heureux parce que, comme vous allez voir, il est lié à la conductance, donc c'est quand même bien. Le coefficient L de 2 doit être positif ou nul également. Vous allez voir que le coefficient L de 2, comme on l'a vu l'an dernier, n'est pas directement la conductance thermique. La conductance thermique, c'est une combinaison de ces différents coefficients. Et puis, le déterminant de la matrice L doit être positif ou nul. Donc, c'est ça les conditions sur la matrice de Hantzager. Donc, c'est la première propriété clé de la matrice de Hantzager que je rappelle ici, qu'on a déjà vu l'an dernier. Et en particulier, dans le cours de la prochaine fois, on verra qu'il y a, on l'a déjà vu l'an dernier en détail, il y a une constante de couplage, qui est une constante de couplage sans dimension, qui caractérise l'efficacité des échanges d'énergie. Alors, cette constante de couplage, c'est L12 carré sur L1, L22. Elle est directement liée à la figure de mérite sans dimension. Et j'aime bien l'utiliser parce qu'elle est comprise entre 0 et 1, la différence de la figure de mérite qui est entre 0 et l'infini. C'est une constante de couplage qui fait donc intervenir... alors, elle est comprise entre 0 et 1 justement parce que le déterminant de L est positif. la limite G tend vers 1, hein, qui est une limite où les contributions réversibles sont les plus grandes possibles et correspond à la limite de Carnot, à la limite d'un processus réversible. La limite G tend vers 0 correspond à la limite où il n'y a aucun terme croisé entre les gradients thermiques et les gradients de potentiel chimique. Bon, on reviendra la prochaine fois sur ça, puisque la prochaine fois, je parlerai d'efficacité dans différents contextes. Alors, la seconde propriété clé de la matrice de Ronsager, je ne vais pas revenir sur les démonstrations de ça, c'est que quand la symétrie par renversement du temps s'applique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de champ magnétique, la matrice L est symétrique, donc L1,2 égale L2,1. En revanche, en présence d'un champ magnétique, eh bien, il y a une propriété qui relie le système avec le champ B et puis le système obtenu par symétrie par renversement du temps, donc avec le champ moins B, et qui nous dit que le coefficient L1,2 pour le champ moins B doit être égal au coefficient L2,1 pour le champ plus B. Je vais très peu parler d'effets en champ magnétique, ou pratiquement pas, dans ce cours, de toute façon. Donc, pour l'ensemble de la suite, sauf précision explicite, la matrice L est symétrique, et L2,1 égale L1,2. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut donc faire, et c'est la partie qui est évidemment cruciale pour comprendre la physique de ces systèmes, c'est d'utiliser ces équations de réponse linéaire pour identifier les coefficients qui caractérisent les différents effets thermoélectriques ou les différents effets de transport. Donc, transport de charge, transport de chaleur, effet Zeebeck ou Zeebeck-Volta et effet Peltier. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, tout simplement d'abord, l'effet de transport de charge. Donc, on se place dans une situation où on n'a pas de gradient thermique du tout et on regarde comment le courant suit la différence de potentiel, la loi d'Ohm habituelle. Donc, ceci nous permet immédiatement, vous voyez, d'identifier. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis passé à des variables qui sont les variables qui nous intéressent dans les systèmes électroniques. Donc, plutôt que IN, je considère le courant électrique, donc moins EIN, plutôt que delta mu, la tension aux bornes du conducteur reliée par cette relation-là. Et puis, j'ai utilisé le courant de chaleur ici pour pouvoir faire le lien plus directement avec l'effet Peltier. Alors, vous voyez donc que I, c'est E2L1 delta V en l'absence de gradient thermique, ce qui nous permet tout de suite d'identifier la conductance du système comme le carré de la charge de l'électron fois L1. Donc, ça, c'est la première relation. Alors, ensuite, je vais regarder le coefficient Zeebeck. Alors, il y a différentes notations ou le pouvoir thermoélectrique. De vocabulaire équivalent. J'utilise l'un ou l'autre selon les cas. Il y a des notations différentes dans la littérature. Je suppose que Lorentz utilise S. Do you use S for Zeebeck coefficient? Moi, je choisis de ne pas utiliser S parce que j'ai l'entropie qui est un peu partout. C'est toujours un problème. Et donc, j'ai choisi alpha, aussi bien dans le cours de l'an dernier que le cours de cette année, ce qui est une notation plus standard dans la littérature sur les matériaux thermoélectriques. Donc, pour moi, le coefficient Zeebeck s'appelle alpha. Et je vous rappelle que l'effet Zeebeck, c'est une géométrie de circuit ouvert. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde un conducteur avec un gradient thermique aux bornes du conducteur, mais sans fermer le circuit. Tout au moins en théorie. Alors évidemment, quand on veut mesurer, il faut faire quelque chose. Eh bien, donc, on se place en condition de circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on fait I égale 0, et vous voyez que ça, donc pas de particules qui passent, et vous voyez que ça, ça impose une certaine relation entre la tension aux bornes du conducteur et le gradient thermique. Bon, c'est donc justement ça, l'effet Zeebeck, hein, c'est l'apparition de cette tension quand on met un gradient thermique, ce qu'on appelle quelquefois la condition d'arrêt, ou la stopping force, donc qui relie la tension au gradient thermique. Et vous voyez que j'identifie comme ça le coefficient Zeebeck, ou le pouvoir thermoélectrique, comme étant moins L1,2 sur EL1. Et j'attire tout de suite votre attention, on en a beaucoup parlé l'an dernier, que le coefficient Zeebeck est un rapport de deux coefficients de Ronsager, et non pas un coefficient de Ronsager lui-même, ce qui a pas mal d'importance, en fait. Alors, donc, voilà le coefficient Zeebeck. Donc, on peut continuer comme ça avec les autres effets, l'effet Peltier. Donc, maintenant, je considère une situation où il n'y a pas de gradient thermique au bord du conducteur et je regarde comment le passage d'un courant électrique dans mon conducteur induit un courant de chaleur. Alors je prends ces équations, je fais delta T égale 0, hein, et je remplace delta V par son expression en fonction de I, et vous voyez tout de suite qu'il y a une proportionnalité donc, entre le courant de chaleur et le courant électrique en l'absence de gradient thermique. Ceci définit le coefficient Peltier, et vous voyez donc que le coefficient Peltier, c'est moins T L de 1 sur L1, sur E L1. Donc, lorsqu'il y a symétrie de Onsager, disons l'absence de champ magnétique, le coefficient Peltier est relié au coefficient Zeebeck par pi égale T alpha, donc il y a un facteur T entre les deux, et ça, c'est la relation de Kelvin. Donc, la symétrie de la matrice de Onsager implique la relation de Kelvin qui relie le coefficient Peltier au pouvoir thermoélectrique. Alors, dernier coefficient, la conductance thermique. Donc, quand on fait une mesure de conductance thermique, on se place de nouveau en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on prend une situation où il n'y a pas de courant de particules. Donc, il faut premièrement d'abord utiliser la condition d'arrêt, qui est ici, substituer dans cette expression, donc on substitue ça ici, d'accord, et puis obtenir la relation linéaire entre le courant de chaleur et le gradient thermique. Alors, c'est pour ça que quand vous faites ça, vous obtenez cette relation un peu plus compliquée, qui vous dit que la conductance thermique divisée par T, c'est L de 2 moins L1 2, L de 1 sur L1. Ce n'est pas L de 2 tout seul, parce qu'on se place en condition d'arrêt, en condition de circuit ouvert. Alors vous voyez que, justement, la positivité du déterminant de la matrice et la positivité de L1 garantit la positivité de la conductance thermique, ce qui est quand même bien heureux. Alors dans la suite, je vais aussi souvent parler de la loi de Wiedemann-Franz, qui est le rapport qui exprime le fait que dans la limite de basse température, comme on va le voir vers la fin du cours, le rapport de la conductance thermique divisée par T à la conductance totale est envers une constante, qui est un nombre simple et universel, tout au moins en l'absence de collision inélastique, ça c'est important, on l'avait vu un peu l'année dernière. Et donc on définit ainsi le nombre de Lorentz, que je peux définir d'une manière plus générale comme un rapport à toute température. Il va tendre vers cette valeur universelle à température nulle, mais je définis le nombre de Lorentz de cette manière. Et donc vous voyez que le nombre de Lorentz est donné par un rapport de ceci au E carré L1 de la conductance. Alors je peux revenir à la production irréversible d'entropie que j'avais tout à l'heure. Donc je vous rappelle qu'on avait la production irréversible d'entropie comme ceci. Et ici, ce que j'avais fait comme choix, c'était de tout exprimer en fonction des gradients. Alors il peut être plus physique et plus utile quelquefois de choisir plutôt des conditions où on connaît, disons, le courant qui passe dans le circuit et le gradient thermique. Et puis, on veut exprimer la tension aux bornes du conducteur et le courant de chaleur. Alors ça, c'est une situation qui est, disons, assez directement reliée aux deux effets physiques de base, hein, l'effet Zeebeck, qui est l'apparition d'une tension, et puis l'effet Peltier, qui est l'apparition d'un courant de chaleur quand on met un courant. Alors, je peux donc tout simplement réorganiser ma matrice, hein, de manière qu'au lieu d'avoir les courants à gauche et les chutes de potentiel ou les gradients à droite, eh bien, j'ai ici un gradient et un courant de chaleur, et puis ici un autre courant et un gradient thermique. Alors, quand je fais ça, je trouve cette matrice ici. Maintenant qu'on a identifié les différents coefficients, je peux la réécrire en termes de ces coefficients. R, ici, c'est la résistance, 1 sur la conductance, moins alpha, où alpha est le coefficient Zeebeck, pi, le coefficient Peltier, et puis la conductance thermique. Alors, vous voyez que c'est une matrice qui a la vertu de ne contenir que des quantités physiques auxquelles on est habitué, donc les quatre coefficients de base. Et je peux maintenant réexprimer la production irréversible d'entropie de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au lieu de l'exprimer comme une forme quadratique avec les gradients, hein, comme tout à l'heure, eh bien je la réexprime en fonction des deux variables de base que j'ai choisies ici, qui sont le courant électrique et le gradient thermique. Donc ça, c'est facile, je reprends l'expression de tout à l'heure, mais j'utilise ce jeu de variables, je substitue, et vous voyez que quand je calcule cette nouvelle forme quadratique ici, eh bien j'ai quatre termes. J'ai un terme qui est proportionnel au carré de l'intensité électrique, RI2, bon, ça c'est pas très surprenant, hein, c'est la production irréversible de chaleur par effet Joule, RI2. J'ai un terme qui fait intervenir la conductance thermique fois le carré du gradient thermique, qui est donc lié à la dissipation d'énergie par transport de Fourier de chaleur. Et puis j'ai un terme qui sont les termes croisés, I delta T fois pi sur T moins alpha. Hein, le T vient d'ici, pi sur T moins alpha. Et donc vous voyez que justement, la condition de symétrie des coefficients de Hunsager ou la relation de Kelvin me garantit que ce terme est exactement nul, ce qui veut dire que les effets thermoélectriques et les deux coefficients thermoélectriques pi alpha ne contribuent pas à la production irréversible d'entropie. Ce sont des effets réversibles, comme on le voit par le fait que quand on renverse le courant, eh bien, dans un système Peltier, le contact qui était refroidi devient chaud. Donc c'est un effet réversible. Donc vous voyez que la production irréversible de chaleur, elle ne contient que le terme Joule et le terme de Fourier, et les termes croisés ont disparu, ce qui illustre le fait que les pertes dissipatives sont entièrement contenues dans la résistance électrique et la conductance thermique. Alors cette expression, elle a aussi pour mérite de vous faire sentir que si on veut avoir un système dans lequel on minimise les pertes irréversibles, donc on va, ce qui évidemment va être une condition pour avoir l'efficacité de conversion énergétique la plus grande possible, eh bien il va falloir avoir une résistance faible, et donc une bonne conductance, et une bonne conductance thermique. Hein, donc on a déjà beaucoup discuté ça l'année dernière, un bon thermoélectrique, c'est un système qui a une bonne conductance et une mauvaise conductance thermique. D'où le fait que la figure de mérite, qui est liée à cette constante G carré, hein, contient au numérateur la conductivité électrique et au dénominateur la conductivité thermique. On a déjà également discuté le fait que, pour faire ça, il faut évidemment sévèrement violer la loi de Wiedemann-Franz, mais comme il y a, en général, dans le contexte des solides, disons, une contribution importante à la conductivité thermique du réseau, c'est celle-là qui est le paramètre sur lequel on peut agir pour minimiser la conductivité thermique du système. Et on aura un séminaire sur ce sujet la semaine prochaine par Olivier Bourgeois qui montre comment la nanostructuration des matériaux permet de diminuer la conductivité thermique. Bon, donc voilà, disons, à la fois un rappel et en même temps un placement des notations et des coefficients introduits l'année dernière, mais plus adapté au contexte des mésoscopiques, puisque j'ai plutôt parlé de conductance que de conductivité. Et ceci nous définit les coefficients, mais ne me dit pas encore comment il faut que comment je vais les calculer. D'accord ? Donc la suite de ce cours maintenant, c'est comment généraliser l'approche de Landauer, qu'on a vue la dernière fois, pour obtenir des expressions similaires tous ces coefficients, donc de la matrice de Hunsager complète. Alors ça, c'est quelque chose qui, pour le cas du transport thermique, a été fait, je crois, la première fois dans un article de Enquist et Phil Anderson, au tout début des années 80, et puis, dans le cas des effets thermoélectriques, a été fait dans un article de Sivan et Imri, au milieu des années 80, il y a également cette référence qui est souvent citée. Alors, je vous rappelle donc la géométrie qu'on avait considérée pour établir la formule de Landauer, donc les choses de base de la dernière fois. On a deux réservoirs et on avait établi une expression qui nous donne le courant de charge, le courant électrique à travers ce système. Donc, vous voyez ici, cette expression-là, c'est une expression qui ne suppose pas le régime de réponse linéaire, hein, qui ne suppose pas que mu left et mu right sont proches l'un de l'autre. C'est a priori une expression qui a une validité générale et qui exprime le courant total comme la différence des deux fonctions de Fermi dans les deux réservoirs fois le coefficient de transmission total du système, qui est une fonction qui dépend de l'énergie. Alors évidemment, il ne faut pas exagérer non plus la facilité d'utilisation de cette expression dans un régime fortement non linéaire, puisque dans un régime fortement non linéaire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que un écrantage dans un tel système qui va dépendre de manière autocohérente des potentiels appliqués. Et donc, en réalité, la fonction de transmission ici, quand j'écris l'expression sous cette forme, on pourrait penser que la fonction de transmission, la transparence de la barrière est donnée une fois pour toutes, mais en fait, en réalité, elle dépend également des effets électrostatiques qui font que quand j'augmente trop la tension, ou quand j'augmente la tension, disons, en réalité, la géométrie effective de ma constriction change. Donc l'électrostatique de ma constriction change, et donc cette transmission de la barrière va dépendre de manière... va dépendre également du potentiel appliqué. Donc, on peut vouloir utiliser cette expression en faisant semblant que la transparence de la barrière ne dépend pas du potentiel, mais en réalité, ça ne va pas être vrai dans un régime vraiment non linéaire. Mais enfin, bon, si on tient compte de cet effet, ça, c'est l'expression du transport électrique, et donc la seule chose que je veux faire, c'est généraliser cette expression au courant d'entropie. Et puis ensuite, on va pouvoir passer dans le régime de réponse linéaire et extraire les différents coefficients. Donc c'est un calcul très simple. Et pour ça, il suffit de remarquer que, en fait, il suffit de revenir au courant de probabilité. Le moins E qui est ici, hein, c'est juste la charge électrique. Donc déjà, je peux me rendre compte que le courant de particules, hein, c'est comme ça qu'on l'avait établi, c'est 2 sur H fois cette intégrale. Le 2 vient du spin. Et donc, vous voyez ici, j'ai 2 pour le spin, moins E pour la charge, et puis 1 sur H, une intégrale des epsilon T de epsilon, fois la différence des probabilités d'occupation dans les deux réservoirs. Je peux donc juste, par analogie, écrire le courant d'entropie. Donc, je vais faire ça au tableau, ça sera peut-être un peu plus pédagogique, si j'arrive à allumer. Je peux donc exactement, de la même manière... regardez le courant d'entropie. Le courant d'entropie, ben ça va toujours être mon 2 sur H, intégrale des epsilon T de epsilon, la transparence. Et puis maintenant, ce que je vais mettre ici, c'est non pas la différence des probabilités à gauche et à droite, mais la différence des entropies qui correspondent à ces probabilités. Donc ici, je vais avoir S, alors je vais écrire petit s ici pour l'entropie élémentaire correspondant à la probabilité d'occupation F left, et ces entropies, petit s de epsilon, sont liées au facteur de Fermi, qui est une probabilité, d'occupation du niveau, et 1 moins F, la probabilité complémentaire, et bien par la relation habituelle, moins KB, F log F, plus 1 moins F log de 1 moins F. Donc ça, c'est le courant d'entropie, et puis j'ai toujours, par ailleurs, le courant de particules, qui est 2 sur H, fois la différence des probabilités, F left moins F right. Vous voyez, ces deux expressions sont très simples. Et la chose qu'il faut que je fasse maintenant, tout simplement, c'est considérer maintenant une géométrie où à gauche, donc j'ai mon système avec un réservoir, disons ma constriction, et maintenant je vais considérer une géométrie où à gauche j'ai non seulement un potentiel chimique mais également une température différente du réservoir de droite, et à gauche, mu right, etc. Donc ces mu se cachent ici dans F, hein, puisque F, ici, contient à la fois mu et la température. Et donc ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est développer ces deux expressions, celle-ci et celle-là, dans la limite où les gradients sont petits. Alors pour ça, c'est un calcul qui prend 2 lignes, si on le présente bien. Je peux juste observer le fait que si je prends une dérivée, donc il va falloir prendre une dérivée de ces expressions par rapport au potentiel chimique et par rapport à la température. Et je peux présenter le calcul d'une manière très simple en remarquant que dd mu de f, qui est une fonction, alors maintenant j'appelle la fonction f de x, 1 sur 1 plus exponentielle x. Hein. Si je prends une dérivée de f de epsilon moins mu sur kt, eh bien cette dérivée, c'est moins df de epsilon. Alors bon, je pourrais prendre f de x ici, mais là je veux vraiment dire d sur d epsilon de f de epsilon moins mu, disons. Considéré comme une fonction de epsilon moins mu. Et puis, de même, d sur dt de f, de la même chose, c'est epsilon moins mu sur t fois moins df de epsilon. Et puis, comme j'ai une expression explicite de s en fonction de f, connaissant ces dérivées, je peux calculer les dérivées de S par rapport à n'importe quel paramètre connaissant celle de F. Vous verrez sans peine que D sur D alpha, n'importe, alpha étant soit mu, soit T, hein, de cette densité d'entropie ou cette entropie élémentaire, eh bien, vous pouvez voir que c'est... donc je peux me simplifier la vie en écrivant DS sur DF, DF sur D alpha. Et après un calcul simple, vous verrez que ça, c'est moins kb log de f sur 1 moins f fois d sur d alpha de f, ce qui est au bout du compte epsilon moins mu sur t, d sur d alpha de f. Alors vous voyez, c'est très simple parce que quand vous prenez une dérivée par rapport à mu de la fonction de Fermi, vous obtenez moins df sur d epsilon. Quand vous prenez une dérivée par rapport à t, vous avez un facteur epsilon moins mu sur t. Et ensuite, quand vous prenez une dérivée par rapport à mu de s, vous avez ce même facteur epsilon moins mu sur t que celui que vous aviez en prenant la dérivée par rapport à la température de f. Et si vous prenez une dérivée par rapport à t de s, qui est la quatrième quantité dont on a besoin, vous obtiendrez un epsilon moins mu sur t ici, et un autre epsilon moins mu sur t à cause de celui-là, et donc un epsilon moins mu sur t au carré. Voilà, donc je regroupe tout ça ici, et ce que j'obtiens finalement, en réponse linéaire, c'est donc que In, en utilisant ces expressions, c'est 2 sur H, l'intégrale de la transmission, fois, alors j'ai linéarisé maintenant, hein, la différence delta mu plus epsilon moins mu sur t delta t fois moins df d epsilon. Et puis le courant d'entropie qui est 2 sur h, cette même intégrale, fois cette fois epsilon moins mu sur t delta mu. Donc ça vient de la dérivée par rapport à mu de l'entropie qui fait intervenir ce facteur. C'est ici quelque part, ce facteur epsilon moins mu sur t. Et puis, comme je l'expliquais à l'instant, epsilon moins mu sur t au carré fois delta t. Fois toujours moins df d epsilon. Alors je peux regrouper tout ça. Donc vous voyez ici, j'ai obtenu les quatre coefficients d'Onsager. Donc, je retrouve ici intégrale 2 sur h, intégrale des epsilon t de epsilon fois moins df des epsilon, qui est la conductance, au facteur moins auprès, la conductance électrique. Ça, ce sont les termes off-diagonaux qui vont me donner le coefficient Seebeck et le coefficient L1,2 et le coefficient L2,1. Vous voyez immédiatement qu'ils sont égaux, puisqu'ils font intervenir le même facteur epsilon moins mu sur t, donc L1,2 égale L2,1, je n'ai pas mis de champ magnétique ici, et puis le dernier terme va être lié à L2,2. Alors je regroupe tout ça donc dans les résultats finaux qui sont sur ce slide. Vous voyez donc que la conductance, alors maintenant on est donc dans le régime de réponse linéaire, on a fait les petits gradients, la conductance est 2e carré sur h fois une certaine intégrale sans dimension I0. Donc j'introduis ces intégrales. Donc vous voyez que j'ai besoin, comme on le voit très bien ici, j'ai besoin de l'intégrale de d epsilon t de epsilon fois moins d epsilon multiplié par un facteur qui est toujours, qui fait intervenir ce rapport. Alors c'est ce facteur, c'est soit 1, soit epsilon moins mu sur t, soit epsilon moins mu sur t au carré. Donc pour rendre ces intégrales sans dimension, et que les choses soient élégamment écrites, et que les dimensions physiques apparaissent naturellement, j'ai juste introduit ici un facteur kb carré, ici un facteur kb, de manière à écrire une série de moments, si vous voulez, sans dimension, qui sont intégrale d'epsilon t de epsilon, toujours ce facteur moins des epsilon, et puis soit 1, soit epsilon moins mu sur kt, soit epsilon moins mu sur kt au carré. Vous vérifiez sans peine que cette intégrale est effectivement sans dimension, puisque f est un nombre, epsilon a la dimension d'une énergie qui se compense avec le d epsilon qui est ici, t de epsilon est une transmission, donc c'est quelque chose qui est sans dimension, et ici on a un rapport d'énergie à kt qui est sans dimension. Donc cette intégrale ici est sans dimension, et je peux utiliser ces trois intégrales dont j'ai besoin pour exprimer mes différents coefficients. Je vois donc g, c'est 2 e carré sur h i0, ça c'est la formule de Landauer de la dernière fois. Alpha, c'est un rapport, puisqu'il est lié à L1,2 sur L1,1. C'est donc moins kb sur e, i1 sur i0. Et donc je vous rappelle que l'unité naturelle de pouvoir thermoélectrique, c'est kb sur e, qui vaut ce nombre important, 86,3 microvolts par Kelvin. Et puis la conductance thermique, c'est 2 sur h kb carré i2 moins i1 carré sur i0. En fait, le nombre de Lorentz, c'est même un peu plus simple, c'est puisqu'on divise encore par I0, en divisant par la conductance totale. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, que ces rapports font furieusement penser aux moments successifs d'une loi de probabilité. Je ferai ça dans le dernier transparent du cours d'aujourd'hui, et on s'en servira la fois prochaine. Donc voilà l'expression, maintenant en réponse linéaire, hein, des différents coefficients de la matrice de Hunsager en fonction de ces intégrales sans dimension. Donc ça, c'est la partie, disons, formelle du cours. Maintenant, ce que je voudrais expliquer un petit peu, c'est par quelle région en énergie ces différents coefficients sont-ils dominés. Donc ce que j'ai dessiné ici, donc vous voyez que chacun des coefficients fait intervenir des intégrales différentes. La conductance, le premier moment, ici, enfin l'intégrale, le moment d'ordre 0 plutôt, le pouvoir thermoélectrique, le moment d'ordre 1, et la conductance thermique, le moment d'ordre 2. Et donc à chaque fois, j'ai un facteur différent qui pondère le coefficient de transmission. Alors on peut regarder la forme de ces facteurs. J'ai dessiné ici en noir en fonction de epsilon moins mu sur kt. Vous voyez que tout ça ne dépend que de epsilon moins mu sur kt. J'ai dessiné en noir le facteur qui pondère la transmission dans le cas de la conductance. Et donc, vous voyez que les états qui dominent la conductance sont les états qui sont situés au niveau de Fermi et à température finie, donc dans un intervalle de l'ordre de quelques kt autour du niveau de Fermi, dans cet intervalle noir ici autour du niveau de Fermi. En revanche, le facteur qui pondère le coefficient L1,2, c'est-à-dire l'intégrale I1, c'est le premier moment. Il fait donc intervenir un facteur qui est impair dans l'énergie par rapport au niveau de Fermi. Ça, c'est un point très important. C'est donc ce facteur rouge. Et je l'ai mis ici avec le bon signe. Donc, j'ai dessiné moins epsilon moins mu moins df sur d'epsilon, qui est le facteur avec son bon signe tel qu'il apparaît dans le coefficient Seebeck. Donc, c'est un facteur qui est exactement nul au niveau de Fermi. Ce qui veut dire que si la transmission était exactement symétrique et qui est impair, donc si la transmission était exactement symétrique entre état juste en dessous du niveau de Fermi et état juste au-dessus du niveau de Fermi, le coefficient Seebeck c'est strictement nul. Hein, et on retrouve cette notion qu'un système qui est complètement symétrique entre excitation de type particule et excitation de type trou a un pouvoir thermoélectrique zéro. Vous voyez aussi que si la transmission est dominée par les excitations de type trou, c'est-à-dire que si le coefficient de transmission pour des énergies légèrement inférieures au niveau de Fermi est plus grand que le coefficient de transmission pour des énergies légèrement supérieures au niveau de Fermi, eh bien le coefficient Seebeck va être positif. Alors que si on est dominé par des excitations de type électron, ce qui va être souvent le cas dans les systèmes mésoscopiques, puisque en général la transmission augmente avec l'énergie, eh bien on va être dominé par des excitations, disons, de type électron, et donc le coefficient Seebeck va être négatif. Alors ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, dans la littérature sur les mésoscopies, qui est quelquefois un peu obscur. Il y a des signes qui flottent un peu à droite à gauche, mais dans la littérature sur les matériaux thermoélectriques bulk, c'est très important, puisqu'il nous faut des modules N et des modules P, et en général, les articles ne mélangent pas les signes sur les pouvoirs thermoélectriques. Voilà, donc le coefficient Seebeck, et le point important, c'est que ce sont les états qui sont légèrement en dessous et légèrement au-dessus du niveau de Fermi, dans un intervalle de quelques kT, qui contribuent au coefficient Seebeck. Les états qui sont juste au niveau de Fermi ne contribuent pas. Alors, il en est de même, en fait, pour la conductance thermique, à part que cette fois, la conductance thermique, elle reçoit les mêmes contributions pour les excitations de type particule ou les excitations de type trou, puisque le facteur qui intervient est de nouveau un facteur pair, mais il s'annule également au niveau de Fermi. Donc les états qui contribuent à la conductance thermique sont en fait des états qui sont quelques kT en dessous et quelques kT au-dessus. Donc voilà les commentaires qu'on peut faire, tout au moins certains commentaires qu'on peut faire, juste sur la base de ces expressions-là. Alors, je voudrais également, pour ceux qui étaient là l'année dernière, ou pour ceux qui s'intéressent aux matériaux thermoélectriques bulk, je voudrais également signaler l'analogie formelle complète qui existe entre ces expressions, démontrées ici dans le cadre du formalisme de Landauer, et les expressions qu'on a montrées l'an dernier dans le cadre d'une équation de Boltzmann pour le transport bulk, donc dans des systèmes de grande taille. Voilà, donc l'année dernière, on avait établi ces expressions. Vous voyez qu'aux notations près, elles sont essentiellement identiques. Mais ce que j'avais appelé T de epsilon l'année dernière est une fonction qui est bien différente, en fait, de la fonction de transmission. C'est une intégrale qui est essentiellement une densité d'état pondérée par le carré des vitesses. Vous reconnaissez ici 1 sur h bar gradient k de epsilon k, c'est la vitesse de mon électron, vitesse de groupe de mon électron dans une onde de Bloch donnée. Donc vous voyez ici, c'est le carré des vitesses qui intervient. Et vous vous souvenez que quand on a fait le calcul la dernière fois d'un conducteur balistique, le courant est proportionnel à la vitesse, pas le carré de la vitesse. Donc ici, on se place dans un régime où on a des collisions et des collisions inélastiques, et la conductivité est liée au corrélateur courant-courant. Donc finalement, au bout du compte, les expressions sont similaires, et on peut voir une analogie totale entre les deux choses, mais la manière dont on va calculer le coefficient de transmission dans les deux situations, ou la fonction de transport, ici on appellerait ça plutôt la fonction de transport, n'est pas la même. Bon, voilà, ça c'était donc un passage qui connecte les deux ensembles d'équations de l'année dernière et de cette année. Alors maintenant, je vous rappelle les expressions de base qui vont nous resservir encore beaucoup la prochaine fois, qui sont ici. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder comment ça se comporte dans la limite des basses températures. Et dans la limite des basses températures, on peut tout simplement faire un développement de Sommerfeld. Jean-Louis Pichard en avait un peu parlé la dernière fois. Donc, dans la limite des températures suffisamment basses, alors on verra concrètement ce que ça veut dire suffisamment basse dans chaque cas, on peut développer le facteur de Fermi, donc F de epsilon moins mu, ça va être quelque chose comme theta, la fonction de Heaviside, de mu moins epsilon, et puis ici, il y a quelque chose comme pi carré sur 6, kt carré, la dérivée de la fonction delta en mu, plus, etc. Ça, c'est le développement de Sommerfeld. Vous pouvez utiliser ces expressions, les substituer dans les différentes intégrales et obtenir la chose suivante. Alors, vous trouvez, d'une part, que la conductance à température nulle est donnée par le coefficient de transmission à l'énergie de Fermi. Et maintenant, quand vous insérez tout ça dans le coefficient thermoélectrique, vous obtenez que c'est ce rapport entre I1 et I0, où LA2 et LA1, et donc vous allez avoir, à cause de ce terme en delta prime ici, vous allez avoir une dérivée de la transmission au niveau de Fermi, divisée, c'est la division par LA1, divisée par le coefficient de transmission lui-même. Donc ce qui intervient finalement, c'est la dérivée logarithmique du coefficient de transmission au niveau de Fermi. Vous pouvez remettre cette formule sous cette forme. Alors, dans la littérature sur les mésoscopiques, le moins de vent est quelquefois un peu oublié, mais il est clairement là, encore une fois, parce que si je suis dans un régime où la transmission augmente avec l'énergie, la coefficient alpha doit être négatif. Et donc, alpha, c'est moins kb sur e, pi carré sur 3, fois cette combinaison sans dimension, qui est essentiellement la dérivée logarithmique de la conductance par rapport à l'énergie de Fermi. Et cette formule porte un nom, c'est la formule dite de Mott-Cutler, qui est donc n'est valable qu'à basse température et dans quel régime de basse température dépend du système. Alors on peut, armé de ces choses, continuer et calculer le rapport de la conductance thermique à la conductance totale, c'est donc notre nombre de Lorentz, et vérifier que quand t est envers 0, eh bien, ce nombre de Lorentz tend vers une valeur universelle, qui est bien connue, qui est donc pi carré sur 3 fois kb sur e au carré. C'est donc la loi de Wiedemann-Franz qui dit que g sur t, ou g thermique sur t, divisé par g, tend vers une constante, ce qui correspond à notre intuition habituelle qu'un bon conducteur thermique, quand il s'agit d'un métal, est aussi un bon conducteur électrique, pas du tout vrai pour les isolants, tend vers une valeur constante. Alors j'insiste sur le fait que tous ces calculs, ça c'est un point très important, tous ces calculs ont été faits en supposant que le coefficient de transmission n'avait pas de dépendance intrinsèque en température. Alors ça c'est raisonnable dans un système mésoscopique où la longueur de cohérence de phase est beaucoup plus grande que la taille du système et donc les processus de diffusion inélastique sont absents. En revanche, si je suis dans un matériau massif, ou dont la taille est plus grande que la longueur de cohérence de phase, je vais avoir des processus de collision inélastiques, de sorte que ce qui joue le rôle, le coefficient de transmission, ou si vous voulez, la fonction de transport, comme on l'a vu tout à l'heure, a une dépendance intrinsèque en température, et clairement, il y a des corrections à cette loi de Wiedemann-Franz due au processus inélastique. Autrement dit, si je faisais un calcul où je tenais compte uniquement des processus inélastiques et pas des processus élastiques, on trouverait une valeur asymptotique quand t est envers 0 qui n'est pas égale à ce coefficient pi carré sur 3. Et l'année dernière, j'avais présenté un petit calcul où on combinait processus élastique et inélastique. On voyait comment le coefficient de Lorentz partait à température strictement nulle, où on est dominé par les collisions élastiques de cette valeur pi carré sur 3, et puis avait une sorte de minimum, de maximum, en passant par une autre valeur qui correspond aux collisions inélastiques. C'est un phénomène qui est connu dans les études basse température des systèmes où les collisions électrons-électrons sont fortes, comme les fermions lourds, par exemple, où pour vraiment trouver pi carré sur 3, en fait, on ne le trouve jamais vraiment, il faut aller à très basse température. Et on voit beaucoup l'effet des collisions inélastiques. Donc, voilà le résultat du développement basse température. Alors, ce que je vais faire maintenant pour finir ce cours, éviter qu'il soit trop long, puisqu'on a deux séminaires aujourd'hui, c'est de vous présenter une première application de ces coefficients thermoélectriques dans l'approche de Landauer au cas d'un contact quantique ponctuel, dont Lorentz a fait les premières expériences sur ce sujet il y a déjà bien longtemps, et il va nous montrer ses expériences au début de son exposé, je pense. Donc je vais vous faire un petit peu la théorie de base, basée sur les expressions qui sont ici. Donc évidemment... contact quantique ponctuel, c'est un triomphe de la physique mésoscopique, puisque c'est l'observation, première observation de la quantification de la conductance. Donc je vais rappeler un petit peu les bases de ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un contact quantique ponctuel? Bon, j'essaie donc, par exemple, un gaz d'électrons 2D, hein, créé dans une nanostructure semi-conductrice, et puis je dépose, enfin pas moi, mais les gens qui savent faire ça, déposent en surface de l'échantillon des grilles. C'est ce qu'on appelle la split gate technique. Donc, on a une grille qui est, dans laquelle on fait une petite, qu'on écarte pour faire une petite fenêtre, petite constriction. Et donc, vous voyez, ce qui est réalisé ici, c'est une constriction entre un réservoir de gauche et puis un réservoir de droite. Alors, si vous imaginiez que la dimension transverse ici de cette grille était très grande, vous voyez qu'on pourrait penser à ce système comme un guide d'onde, une sorte de guide d'onde. Vous avez des particules qui partent du réservoir de gauche qui entre dans ce guide d'onde. Vous vous souvenez du petit film, petite animation de la dernière fois, on voyait des particules entrer à droite, à gauche dans une constriction. Et un contact quantique ponctuel, c'est comme une sorte de guide d'onde, mais dans lequel on a diminué la dimension transverse de manière à ce que ce guide d'onde soit réduit à sa plus simple expression ici. Alors en fait, quand on mesure la conductance quantique, la conductance de ce système, dans le, évidemment dans un régime où les collisions inélastiques sont absentes, et qu'on va à suffisamment basse température, eh bien on voit les paliers de charge en fonction de la tension de grille appliquée qui règle le potentiel chimique du système, donc qui règle mu. Donc voilà la première observation, un des deux articles dans lequel est rapportée la première observation de cette quantification de la conductance. Donc ce que vous voyez ici, c'est la conductance du système en fonction de la tension de grille. Donc la tension de grille est appliquée ici au-dessus et nous permet de régler le potentiel électrostatique global, donc l'énergie de Fermi. Et vous voyez ici ces paliers de charge qui ont une hauteur 2 e carré sur H. Alors, ce n'est pas une quantification aussi précise et rigoureuse que celle qui est observée dans les fioles quantiques, mais c'est quand même un très bel exemple de la force de ces concepts-là et du fait de penser à la conductance comme une transmission. C'est la grande idée de Landauer et de ses disciples. Alors, pour comprendre un petit peu mieux, la physique derrière cette chose-là, je vous rappelle que quand on considère la formule de Landauer dans une géométrie où il y a beaucoup de canaux transverses, ce qui intervient, c'est le coefficient de transmission, c'est finalement la somme de toutes les transmissions qui nous permettent de passer d'un canal M à un canal N lors du passage de l'électron, ce qui peut aussi s'écrire comme la trace de TT croix, où T est la matrice de transmission pour les amplitudes. C'est aussi la trace de la matrice de transmission pour la probabilité. Et qu'est-ce que c'est que ces modes transverses? Bien, je parlais de guides d'onde tout à l'heure, donc c'est les modes d'onde stationnaires transverses dans le guide d'onde. On peut y penser comme ça, par exemple. Donc on avait déjà un petit peu vu ça la dernière fois. Imaginons par exemple une géométrie 2D. Les niveaux de propagation électronique dans ce guide d'onde sont caractérisés par deux nombres quantiques. Le moment selon la direction X du guide d'onde et puis le nombre quantique qui est un entier positif de quantification du mode transverse. Donc on aura le h bar carré kx carré sur 2m, c'est un modèle très simple où on a une boîte à bord rigide, pas un modèle très réaliste, mais juste pour illustrer le propos, une boîte à bord rigide, et puis la propagation comme une onde plane dans la direction du guide d'onde et la quantification discrète contrainte par les murs dans la direction transverse, avec donc ici une dépendance en n carré de ces états. Je vais donc, si je fixe mon énergie de Fermi, avoir un certain nombre de modes qui sont en dessous de l'énergie de Fermi, très en dessous. Ceux-là, on va les appeler les modes ouverts. La transmission dans ces modes sera essentiellement 1. Et puis, je vais avoir des modes qui sont très au-dessus, hein, que je ne vais pas pouvoir accéder, qui ne sont pas pertinents pour le transport, donc je vais l'appeler les modes fermés. Et puis j'ai peu de modes, quelques modes, qui vont couper le niveau de Fermi, et ceux-là, ils sont partiellement ouverts et partiellement fermés, c'est-à-dire qu'ils ont une transmission T qui est comprise entre 0 et 1. Alors on peut calculer, étant donné la dimension transverse de mon point quantique, donc cette dimension qu'on va appeler W ici, la taille de l'ouverture, hein, qui serait la taille transverse de mon guide d'onde, c'est-à-dire le A de cette formule, on peut calculer le nombre de modes ouverts. Et vous voyez que le nombre de modes ouverts, eh bien, c'est tout simplement la partie entière de KFW sur pi. Et c'est cette partie entière. Donc chaque fois que je change l'ouverture de mon contact quantique ponctuel par une certaine fraction de la longueur d'onde de l'onde incidente, de l'onde électronique, eh bien, j'admets un nouveau mode. Et donc ces paliers de conductance, c'est tout simplement l'ouverture successive des nouveaux modes quand j'élargis mon contact. Élargir mon contact, c'est exactement ce que je fais quand je change la tension de grille, par exemple, ou je change mon potentiel chimique. Je peux régler les deux, en fait. Donc, voilà les paliers de conductance. Si maintenant je considère un modèle extrêmement simple, trop naïf, mais très simple, où je dis qu'il n'y a que des modes complètement fermés ou complètement ouverts, ce qui vous rappelle peut-être des souvenirs littéraires, la coefficient de transmission, c'est donc une somme de termes. Epsilon n, c'est les énergies des modes transverses. Et vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, la conductance, c'est une somme de fonctions de Fermi, donc une marge d'escalier d'amplitude 2e carré sur H, et c'est exactement ce qu'on voyait tout à l'heure, évidemment, dans le régime suffisamment basse température. Alors, on peut utiliser les expressions précédentes pour, de la même manière, obtenir une expression pour le pouvoir thermoélectrique. Alors, on a établi ici le coefficient de transmission, donc je le fais dans ce modèle super naïf, où j'ai que des portes ouvertes et complètement ouvertes ou complètement fermées. Je peux calculer I0, on vient de le faire. Je peux également calculer I1, qui est donc le premier moment de cette expression. On a une expression très simple dans ce cas-là. Et ce que vous obtenez, donc ici j'ai fait un petit tracé de cette courbe, de ces courbes dans le cas où j'ai tout simplement trois niveaux. Donc regardez pas trop ce qui se passe à droite, parce que ce n'est pas réaliste, il faudra ajouter d'autres niveaux. Donc vous voyez ici, par exemple, ici c'est le potentiel chimique, disons, et ici ce qui se passe, c'est que le potentiel chimique croise le second niveau, c'est-à-dire que le second niveau est en train de devenir ouvert. Juste en dessous, il était fermé, juste au-dessus, il est ouvert. Et donc ma conductance est passée de 2e carré sur H à... Alors, ce n'est pas les bonnes unités ici. Si, si, ça c'est 2e carré sur H et ça c'est 4e carré sur H. À 4e carré sur H. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que le pouvoir thermoélectrique, qui est l'autre courbe ici, a un pic au moment où eh bien, ce canal s'ouvre. Donc, le pouvoir thermoélectrique donne, vous signale l'ouverture individuelle de chaque canal. Il a un pic chaque fois qu'un nouveau canal s'ouvre. Dans le cas d'un potentiel parabolique, par exemple, on peut voir que la hauteur de ce pic est donnée par cette expression, donc d'un potentiel de parabolique de confinement transverse. Et on va voir la première observation expérimentale de cet effet dans le séminaire de Lorentz. On peut aussi regarder la dépendance en température. Alors, ce qui est amusant, c'est que la dépendance en température, donc ça, c'est le Seebeck en fonction, disons, de chaque fois qu'on croise un niveau, pour deux températures différentes. Et alors, vous voyez que ce qui est amusant, c'est que le pouvoir thermoélectrique s'écroule très vite en fonction de la température, quand on n'est pas exactement sur la condition ici. Mais quand on est sur cette condition-là, en fait, le pouvoir thermoélectrique est essentiellement indépendant de la température. Et ça, ça vient du fait, si je remonte aux expressions qui sont là-haut, qu'il y a un facteur KT ici, mais il y a également un facteur 1 sur KT dans cette dérivée, puisque cette dérivée ici, elle fait essentiellement intervenir la pente de la fonction de Fermi à son point d'inflexion, qui varie comme 1 sur la température. Ces deux KT se compensent, et donc la hauteur de ces pics, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, reste finie quand on va à basse température. Ce n'est pas des fonctions qui deviennent des fonctions delta, hein, quand la température tend vers zéro, ces pics restent à hauteur finie. Voilà, donc ça c'est un calcul où on a mis plus de niveaux que j'ai extrait de cet article de revue, qui est d'ailleurs assez utile sur le sujet, dont Lorentz est un des co-auteurs. Et donc c'est un modèle un peu plus réaliste, où on considère un modèle de Poincel pour le potentiel de confinement du point quantique, c'est un modèle qui a été introduit par Bütiker. Et vous voyez ici les paliers de charge, donc ça c'est en très plein, c'est la conductance, en très pointillé, tireté, c'est la conductance thermique divisée par la température. Donc vous voyez qu'il y a des points où les déviations à la loi de Wiedemann-Franz, qui sont purement des déviations thermiques ici, sont très très faibles. Et puis il y a des points où il y a des toutes petites déviations à la loi de Wiedemann-Franz. Et puis on a ces pics de pouvoir thermoélectrique en connexion avec le passage, l'ouverture d'un canal. Alors ici, on est dans un système clairement où la transmission augmente avec l'énergie, donc le pouvoir thermoélectrique est négatif. Et vous voyez ici, c'est bien un moins KB sur E. Donc effectivement, le pouvoir thermoélectrique est négatif. Il a été représenté comme une fonction positive, mais en unité de moins KB sur E. Alors, j'ai essentiellement fini. Je voudrais juste dire un mot qui va connecter au cours de la prochaine fois, qui est un cours de 2 heures, où je vais parler de filtrage en énergie. Alors, vous voyez que ces expressions-là, pour essayer d'attirer l'attention un petit peu sur quelque chose qui va nous permettre de penser un peu plus physiquement à ce système. Donc, je reviens à ces expressions sur les différents coefficients thermoélectrique, vous voyez que clairement, on a envie de penser à ces objets comme les moments d'une distribution. Ce sont les moments d'une distribution. Et c'est facile de rendre cette idée précise puisque le coefficient de transmission est positif et cette fonction ici, c'est aussi une fonction positive. C'est un pic positif piqué au niveau de Fermi de largeur kT. Donc on a très envie, au moins pour analyser un petit peu ce qui se passe intuitivement, d'introduire une fonction de distribution en énergie qui est en gros la conductance à l'énergie epsilon normalisée par la conductance totale, de sorte que ceci est effectivement une densité de probabilité, elle est comprise entre 0 et 1, elle est d'intégrale totale unité, elle est positive. Donc c'est une densité de probabilité tout à fait respectable. Et on verra la prochaine fois que le pouvoir thermoélectrique est directement relié au premier moment de cette distribution et la conductance thermique est directement reliée au second moment. Cette notion a été introduite dans un article de Mehan et Sofo qui essaye de réfléchir à comment construire un système, c'est-à-dire comment, dans ce cas-là, choisir la transmission du système pour obtenir une constante de couplage ou une conversion de l'énergie la plus grande possible. Et donc, dans ce langage, ce problème se formule comme comment choisir la distribution P de epsilon de manière que son premier moment soit le plus grand possible par rapport à sa variance. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et on va faire une petite pause de 10 minutes et ensuite écouter le séminaire de Lorenz. Et si vous avez des questions, c'est le moment.